Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilino.
Salut à toutes et tous et un bon dimanche à tout le monde à l'écoute des grandes gueules du sport. Vous le savez, vous êtes nos grandes gueules du sport. Appelez-nous au 32-16 pour participer et sur WhatsApp au 06-12-424-424. On est ravis de débuter ce dimanche d'ouverture de Roland-Garros ensemble dans les GG. Autour de la table aujourd'hui, je le disais, il y a tous les sports représentés. Évidemment, début de Roland-Garros. Sarah Pitkowski est toujours là sur RMC. Salut Sarah.
Bonjour à tous.
C'est ton combien de temps Roland-Garros avec RMC, Sarah? Je sais ce qui les a comptés.
Je crois qu'on est à plus de 20.
Ah oui. Bon. Combien de victoires françaises?
Marie Pierce.
Marie Pierce.
Eh oui.
C'est il y a combien de temps Marie Pierce?
C'est quoi? C'est 2005 Marie?
Ah oui. Attention, parce que 20 ans, on est en 2026. Hein,
Il y en a une,
évidemment, Marie Pierce, la dernière gagnante française. Bon, t'es prête?
Écoute, moi, je suis prête, mais ça, c'est pas très grave si je le suivais un peu moins. C'est ceux qui seront sur les cours à partir de 11h. Parce qu'aujourd'hui, les conditions.
Comment c'est tard, finalement, le matin?
Comment c'est tard le matin, t'as raison. 35 degrés,
c'est ça.
Il va faire très chaud.
Sérieusement, je pensais que ça commençait plus tôt le matin.
Commencer plus tôt, certaines années, mais on décale un peu.
Bonjour, Marc Madio.
Bonjour.
Ça va? Bah, tu vas pas nous faire croire non plus que vous partez à 7h du matin dans les courses cyclisme.
On part assez tôt, les classiques.
Les classiques, oui, mais le tour, c'est 13-14h.
6h30, 7h debout le matin.
Ouais, bon, sur le Tour de France, ça part à 11h. Le plus tôt, ça part à 11h.
Oui, mais il faut H-3.
Ah oui, oh, d'accord. Mais bon,
ça veut dire quoi, H-3? Ah, 3h, oui, oui.
Ah oui, non, mais c'est vrai que c'est l'organisation.
Évidemment.
Pascal Duprat, comment ça va, Pascal?
Écoute, ça va bien, Georges. Bonjour à tous. Bienvenue au nouveau.
Oui, bien sûr, puisqu'on a tous les sports représentés aussi. Robin du rugby avec l'ancien capitaine du Stade français, 5 fois vainqueur. Du bouclier de Brennus.
Ah, quand même.
Ça, c'est la classe, quand même. Pierre Rabadan, ça va, Pierre?
Ça va remonter aussi. Hein. Mais salut à tous. Très, très heureux d'être avec vous.
T'aimais bien, toi, jouer sous les grosses chaleurs comme ça, là?
Ouais, je sais pas qui aime jouer sous les grosses chaleurs. Ouais. Non, mais t'exploses au bout de 5 minutes quand il fait très chaud. Donc, non, pas spécialement. Ouais. Après, pour nous, au rugby, c'est un peu la fin de saison quand il commence à faire chaud. Ouais. Donc, si tu joues encore, ça veut dire que t'es encore en course.
C'est plutôt bon signe, quoi. Donc, c'est
ouais.
Bon.
Ouais. Bon, on a vu, il faisait très chaud hier entre l'UBB et le Leinster. On a vu que les Irlandais sont pas forcément bien quand il fait chaud.
Ils ont explosé, ouais, je crois que.
Comme du popcorn, ils ont explosé. Ouais. Plus il faisait chaud, plus ils se délitaient.
Bon, bah, bienvenue dans la bande, Pierre. Les grandes gueules du sport jusqu'à midi. Aujourd'hui, c'est le début de Roland-Garros. Hein, 2 semaines où vous n'allez rien manquer sur RMC. On a une radio digitale, RMC 100% terre battue dès 11h pour avoir toutes les balles. Et puis notre podcast court numéro 1 aussi tous les jours. Sans Alcaraz. Et est-ce que Yannick Sinner est sous pression? C'est la question qu'on va se poser en fin d'émission tout à l'heure, hein, parce que là il a un boulevard devant lui pour aller décrocher le seul grand chelem qui manque à son palmarès. À 10h sur la ring. Sur le ring, vous savez qu'on est quand même à 6 jours de la finale de la Ligue des Champions, hein, accessoirement. PSG-Arsenal, finaliste l'an passé, est-ce que le PSG a vraiment un gros avantage? Vous votez sur le compte XDGG du sport. À 10h30 du rugby avec l'UBB, donc qui conserve sa couronne européenne en Champions Cup en étriant le Leinster 41-19. L'UBB prend une autre dimension. Tiens, Pierre, oui ou non?
Évidemment.
Le dossier des GG avec les jeux augmentés où le dopage est autorisé, voilà, qui débute aujourd'hui à Las Vegas. On en a beaucoup parlé ici. Ben voilà, on y est. On va savoir un petit peu à quoi ça va ressembler exactement. Est-ce que ces jeux sont un danger pour le sport? Le zapping, on va parler F1, cyclisme et le vestiaire. Alors, vous allez nous parler de ces moments où le sportif porte des revendications, comme les stars du tennis actuellement qui demandent une meilleure répartition des revenus. T'as été un manifestant, Marc Madio?
Oui, mon surnom quand j'étais coureur, c'était Crasdu.
Comme ça, c'est clair.
Ah, je te vois bien le poids levé.
Années 80, Crasdu. Ah, ah.
En même temps, si je te vois bloquer la route, moi, je te dépasse pas, quoi. Tu vois, je sens que tu maintiens bien le barrage. Et en fin d'émission, en plus à l'époque, il y en avait quand même quelques-uns avec Bernard Hinault et tout ça. Ouais. On passait pas comme ça. Hein. En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Ce week-end, a gagné un séjour dans un des 400 campings Homer, des campings 4 et 5 étoiles situés en France ou en Europe. Hein, vous voyagez selon vos envies de 2 nuits à 1 semaine jusqu'à 6 personnes sur l'année à venir. On va voir si Pierre déchire tout dans la culture sport. Est-ce que dans les quiz tu vas marcher sur tout le monde?
Ah, puis il y a des trucs pièges, il y a des trucs un peu foireux.
Attention, il y en a qui mentalement explosent, hein, je te le dis. Donc tu peux arriver sur la force de la découverte. Pour remporter votre séjour, Omer, appelez le 32-16, touche 4, envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Mais d'abord, coup de tonnerre sur Roland Garros hier. L'espoir français, Arthur Fils, forfait de dernière minute.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
C'est un match dingue.
Vous entendez Carlitos qui fait la diff là, c'est fait.
5-2.
Oh énorme. Oh,
mais c'est génial.
C'est complètement dingue.
Oh, il finit sur un passif de coup droit Carlos Alcaraz. Cette finale mythique.
C'est incroyable.
S'achève sur un winner. Alcaraz remporte Roland.
Je suis terriblement excitée.
Moi aussi, ça commence.
L'info est confirmée. Carlos Alcaraz ne participera pas à Roland Garros. Voici ce qu'il vient d'annoncer sur ses réseaux.
Non, ce n'est pas grave, Pierre.
Lunard, non, elle est sauvée.
Et prends la bande.
Allez,
c'est gagné.
Elle est toujours dedans, ça joue.
Et voilà, c'est fini. Arthur Fils remporte l'ATP 500 de Barcelone.
J'ai une information qui nous vient de Roland Garros. Une mauvaise nouvelle, puisqu'on nous apprend que Arthur Fils est forfait. Parfait pour le tournoi de Roland Garros.
J'ai tout fait pour être prêt pour pouvoir jouer. Je ne serai pas à 100%, je ne suis même pas sûr d'être à 50%, donc je ne vais pas prendre de risques.
Encore, ça fait beaucoup là, non? Ouais, c'est vrai qu'on était très excités il y a quelques semaines et là on a pris un bon coup de climatisation. Alors vous me direz, ça fait du bien hein, vu la chaleur actuelle, mais avec les forfaits d'Alcaraz et d'Arthur Fils. Hein, donc hier, Arthur Fils qui devait être l'une des grandes attractions de ce Roland, mais le numéro 1 français étincelant depuis son retour de blessure cette année, ne disputera pas le tournoi. Le 19e mondial devait lancer sa quinzaine demain contre Stan Wawrinka. Et ben il ne sera pas là, comme Alcaraz, donc le vainqueur sortant forfait depuis plusieurs semaines. Les GG, je vous pose la question. Sans Fils et Alcaraz, est-ce que Roland Garros perd de sa valeur? Oui ou non? Sarah Pitkowski.
Ben non, je ne vais pas vous dire oui, non, absolument non.
Pascal Duprat.
Évidemment oui.
Pierre Rabadan.
Pardon, Team Pascal, ouais. Évidemment qu'il perd de la valeur.
Team oui. Marc.
Non.
Bon, on vous attend au 32-16, évidemment.
Il y a les vrais amoureux du sport et puis il y a les ténix, quoi.
Mais non, mais quoi,
voilà.
Il y a les doux rêveurs et puis il y a.
Oui,
non,
et il y a les gens qui sont ancrés dans le réel.
Les réalix.
Les réalistes.
Les ravis de la crèche, comme dirait Christophe Cessieux. Alors, on vous attend au 32-16 et sur WhatsApp au 06-12-424-424. Notre voix du tennis, Eric Salio, nous rejoint depuis Roland Garros. Salut, Eric.
Bonjour à tous.
Oh là.
Salut Eric.
Eric, je vais d'abord poser une question que je pose pas habituellement, qu'on devrait poser plus souvent parce que l'humain est important. Ça va toi?
Bon, il y a des jours meilleurs.
Oh là. Bah, écoutez Roland Garros sur AMC, hein, ça va être hyper fun.
Je crois que t'es dans notre équipe.
Eric, est-ce que le tournoi fait la tête après le forfait de Fils hier?
Écoutez, on va être transparent, on va pas être focus. Le forfait d'Alcaraz nous avait attristé, bien sûr. Mais on s'était tout de suite dit qu'il pourrait y avoir un chemin pour Arthur Fils. Et qu'Henri Lecomte, dernier finaliste en 88, pouvait avoir un successeur. Et le verdict du tirage au sort jeudi, merci Tony Estanguet, avait entretenu ce fol espoir. Même si les absences du numéro 1 français sur les plannings d'entraînement nous avaient alertés. Et hier après-midi, le communiqué de la FFT est tombé à 16h06. C'était le coup de grâce, le coup de massue, tout ce que vous voulez. Et Arthur s'est présenté en cours de prêt totalement dépité.
Je l'ai senti venir. Après, j'ai tout fait pour être prêt pour pouvoir jouer. La question est assez simple. Si tu t'entraînes pas, ça fait 2 semaines que tu t'entraînes pas. Même sans t'entraîner, quand tu reprends, tu sens toujours un peu mal, enfin, toujours un peu de douleur. Ça en devient assez simple. Tu réfléchis et tu te dis, Arthur, est-ce que t'es prêt à aller loin dans ce tournoi? Ou est-ce que ton but, c'est juste de passer 1 tour ou 2 tours? Je connais ma réponse. Je sais que mon but, c'est d'aller le plus loin possible. Donc, et je sais qu'aujourd'hui, je suis pas capable de le faire. Je serai pas à 100%. Je suis même pas sûr d'être à 50%. Donc, je vais pas prendre de risques.
Dans 15 jours, Arthur Fils sera peut-être 20e ou 21e mondial, on n'en sait rien, en n'ayant pas joué un match en Grand Chelem sur les 12 derniers mois, c'est totalement lunaire. Et comme Sinner semble imbattable, l'intérêt c'est de deviner qui va sortir du bas de tableau. Franchement, je me sens un peu détaché de tout ça. J'ai l'impression de me transformer en camelot qui vous vend son épluche légumes révolutionnaire dans un marché du Var au mois d'août.
Ah oui.
Je suis désolé, j'ai un peu perdu la foi. Mais bon, il suffit que Benjamin Bonzi tape tout à l'heure Zverev et ça va repartir.
Ah, okay. Tu nous fais plaisir. Parce que j'ai eu un peu peur, j'allais te demander de passer à l'accueil pour déposer tes lacets et ta ceinture.
Oui, parce qu'on a quand même connu mes meilleurs vendeurs d'événements. Hein. Merci Eric, tu restes avec nous. Sarah, bon, Roland Garros a toujours de la valeur.
Évidemment que Roland Garros a toujours de la valeur. Tu as 64 matchs de simple féminin, 64 matchs de match masculin en l'espace de 3 jours. Le principe du tournoi de Roland Garros, c'est que même si on connaît le vainqueur à l'arrivée, et ça nous est arrivé pendant 14 ans, hein, c'était un certain Rafael Nadal, il se passe toujours des choses parce que la surface le permet, parce que on est français et qu'il y a toujours des Français. Il y a des épopées, il y a toujours eu des épopées. Alors après, elles vont pas nécessairement au bout, elles t'emmènent pas en deuxième semaine, mais c'est un tournoi qui t'apporte toujours des satisfactions parce que les scénarios, ils sont totalement différents au fur et à mesure. Des grandes années, moi je me souviens en 97 quand Kuerten est 66e mondial, gagne le tournoi, il y a une nouvelle star qui arrive, Michael Chang qui nous fait son service à la cuillère, Marie Pierce qui gagne le tournoi.
Enfin, on va un peu chercher loin dans
Non, mais ouais. je peux t'en trouver. Son gars en 2013 qui met 3-7 à Federer en quart de finale, on a l'impression qu'on va avoir le prochain Yannick Noah, et puis il y a cette demi-finale programmée en deuxième match où les spectateurs ont abandonné le central parce qu'il y a eu
Vavrinka en pyjama.
L'édition 2026, Sarah, s'il te plaît.
Je peux pas te la vendre parce que scénarios, il peut y en avoir plein. Des histoires, il va y en avoir. Il va y avoir forcément des belles histoires. Voilà. Alors peut-être que ce sera Sinner qu'on trouvera dans 15 jours, mais entre-temps, il va se passer des belles histoires. C'est
certain. Quel match t'a marqué sur le tournoi masculin l'année dernière ? À part la finale. Quel match t'as marqué là?
Il faut que je réfléchisse, mais c'est la finale.
Sur les cordes, ça.
Il y a eu tellement de Loïs Boisson l'année dernière que j'ai pas de souvenir là tout de suite du tableau masculin.
Il y a eu l'épopée
de Loïs Boisson.
Moi, je vais me concentrer sur le tournoi des journalistes et espérer qu'Eric va le gagner. Voilà. Franchement, hier, d'ailleurs, Eric l'a très bien dit, à partir du moment où Arthur Fils, alors qu'on savait déjà qu'Alcaraz, le tenant du titre, n'allait pas disputer ce tournoi, donc rivaliser avec Sinner, à partir de ce moment-là, on se concentrait tous, en tout cas moi, sur Arthur Fils, sa métamorphose physique, le fait qu'il ait gagné Barcelone, le fait que, franchement, il a de la graine de champion, donc on en venait tous à rêver que Fils fasse un tournoi fantastique, qu'il a loin dans la compétition. À partir d'hier, Roland-Garros restera toujours Roland-Garros, parce que c'est un grand chelem, parce que c'est le printemps, parce qu'il va faire beau, parce qu'il y a beaucoup de matchs, comme tu l'as dit, parce qu'il y aura du monde.
On ne dit pas que Roland-Garros ne sera plus Roland-Garros, Pierre. On dit qu'il perd de la valeur.
Oui, il perd sa valeur, mais il perd pas toute valeur, évidemment. Oui. Ça veut dire que c'est un tournoi fabuleux, on va encore.
Évidemment, on va regarder.
On va se régaler, mais forcément, quand tu perds Alcaraz et Fils. Forcément, c'est un peu moins attractif pour les techniques, comme dit Sarah.
Mais c'est pas grave.
Je dis pas que c'est grave, mais forcément, le tournoi, il perd un peu de sa valeur. Ça veut pas dire que ça va pas être un Roland Garros intéressant, il va y avoir des histoires fabuleuses, mais de fait, quand tu perds le favori ou l'un des deux favoris, et le meilleur français, ben forcément, ton tournoi, il perd sa valeur.
Tu fais une Coupe du Monde de rugby sans Antoine Dupont les stars
néo-zélandaises. Sa valeur, la Coupe du Monde, c'est normal, si t'as pas les meilleurs joueurs.
Tu vas la regarder quand même, mais il va manquer du sel. Bon, c'est un peu ce que me dit Ali, là, sur WhatsApp. Oui, mais... Il dit, je suis désolé, c'est comme si la Coupe du Monde de foot se faisait sans Mbappé, Messi, Ronaldo, il te manque les étoiles qui te font briller le tournoi.
Tu vas peut-être avoir d'autres émotions sur
d'autres joueurs qui vont sortir du lot.
Voilà, peut-être. Mais avant Roland, quand on t'annonce ça, ça perd de sa valeur.
Ça t'a mis un coup, toi, tu t'es dit, ah, c'est pas possible. Bah, tu veux vraiment y aller, Roland?
J'étais déçu, notamment après la finale masculine qu'on a vue l'année dernière.
On voulait la revanche.
Voilà, qu'on voit pas ce retour-là. Et puis, on attend toujours le ou la française qui va aller au bout, qui est pas loin d'aller au bout. Donc, forcément, j'étais un peu déçu. Mais voilà, il va y avoir, comme a dit très bien Sarah, il va y avoir d'autres choses.
Et le tableau est ouvert. Donc, il va forcément se passer quelque chose. Et je vous rappelle qu'ici même, on fait des débats en disant que Alcaraz, Sinner qui sont en train de cannibaliser tout le circuit, est-ce qu'on peut pas avoir des outsiders? On va en avoir, ils vont sortir du lot,
mais on n'est pas sûr, hein. Enfin, on va voir.
Le discours des auditeurs, notamment, un peu
dépité, est-ce qu'il va vraiment y avoir des histoires?
Mais il y en aura toujours. On va peut-être avoir un Djoko, hein.
Marc, ce sont pas les coureurs qui font la course.
Les absents ont toujours tort.
Ouais.
Et vous allez voir, là, on est en train d'épiloguer sur Fils, sur Alcaraz et d'autres. Mais à partir de cet après-midi, on va rentrer dans la compétition. Et vous allez voir, À partir de demain, vous n'allez plus parler d'Alcaraz, vous n'allez plus parler d'Arthur Fils. Vous allez vous concentrer, vous allez observer, vous allez évaluer les prétendants qui peuvent sortir du lot. Donc on rentre dans la compétition. Alors avant la compétition, on verse la petite larme parce que Pierre, Paul ou Jacques n'est pas là. Mais une fois que la compétition est lancée, quel que soit le sport, tennis, vélo, foot, tout ce que vous voudrez, une fois que la course ou la compétition est lancée, on bascule dans autre chose et c'est fort heureux.
Marc, un Tour de France en Pogacar et Sexas, par exemple, en ce moment, forcément.
Eh bien, il y a Vingegaard, mais il y aurait aussi d'autres coureurs qui arriveraient sur le devant du panier.
On se souvient une année où Contador et Froome, qui étaient les grands favoris, par exemple, se sont blessés.
Eh bien, c'est pas grave, il y en a eu d'autres. Ouais. Compris la place. Donc, c'est
pourquoi? Parce que l'événement est plus fort que les acteurs.
L'événement est plus fort. Et encore une fois, à partir du moment où on est dans une compétition, on est présent ou on n'est pas présent. Si on n'est pas présent, on est oublié. Et on essaie de revenir l'année suivante. Voilà. Très simple.
Mais après, ça empêche peut-être, ça freine un peu un élargissement de la base, voilà.
Pas forcément. Il va y avoir un intérêt différent.
Ouais, oui.
On va regarder des joueurs.
Je comprends ce que tu veux dire sur le plan quoi? Le plan télévisuel. Mais les places, elles sont déjà vendues. Ben voilà, les droits télé sont déjà vendus. Les loges, elles sont pleines à craquer.
Oui, mais c'est quand même, Pascal. Deux joueurs extrêmement spectaculaires.
Bien sûr.
Ils reviendront l'année prochaine.
Oui, oui.
Oui, heureusement qu'il y a Djoko, je tremble, pourvu que Djoko ne chope pas la grippe.
Il joue un Français ce soir en night session.
Donc tout va bien.
Ce matin, chez nos confrères de l'équipe, Mats Wilander, ancien vainqueur de Roland Garros, ancien battu face à Yannick Noah en finale, disait le forfait d'Arthur Fils finalement est encore plus grave que celui d'Alcaraz pour le tournoi. Vous êtes d'accord avec ça ou pas?
Mais oui, parce qu'on est en début de tournoi et parce qu'on est en France et parce que c'est notre numéro 1 français.
Oui, mais imagine si se fait sortir au premier tour.
Ah bah oui, d'accord.
Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
Bien sûr.
Oui, encore une fois, la compétition démarre. Laissons-la s'installer et elle va s'installer et elle va prendre le pouvoir, cette compétition.
Mais est-ce que vous comprenez?
Elle va nous révéler des nouveaux joueurs.
Wilander, en gros, parce que c'est vrai que Fils, il participe à l'ambiance générale qu'il y aurait eu sur ce tournoi.
Oui, moi, je suis plutôt. Alors, est-ce que c'est plus qu'Alcaraz? Peut-être pas.
Au niveau mondial.
Je vois ce qu'il veut dire. Je vois ce qu'il veut dire quand il dit quand t'as ton numéro 1 local qui est pas là, du coup, c'est assez décevant. C'est une déception, mais voilà, il va y avoir d'autres choses et je suis assez d'accord. On l'a vu sur plein d'exemples. Une fois que la compétition a démarré, après, c'est une autre histoire qui s'ouvre.
Et puis, tu sais quoi, ça fait un moment qu'on fait sans les Français.
Ouais, c'est ça.
Roland.
Oui. Oh, bah, d'accord. La force de l'habitude.
Pour une fois qu'on en avait un qui commençait à montrer le bout de son nez et qui était performant, c'est quand même dommage. Vous devez le concéder.
Oui, c'est évidemment que c'est dommage. Après, on a quand même fermé les yeux depuis une semaine. Eric le disait, personne n'a vu s'entraîner. Il a refait une autre infiltration.
C'est vrai que Marion Alizé était très, très, très optimiste hier, parce qu'on reçoit beaucoup de messages là-dessus, mais bon, il y avait beaucoup d'informations cachées, on va dire.
À partir du moment où tu t'entraînes pas, oui, c'est comme les vélos, tu vas pas perdre. Mais effectivement, il s'est fait infiltrer en début de semaine. La douleur était encore là. Et ce qu'il dit, en fait, lors de la conférence de presse, c'est aussi intéressant parce que l'année dernière, il se présente aussi au tournoi en n'étant pas à 100%. Mais voilà, et il était en pleine forme, il était en pleine bourre, il était 14e mondial. Et l'année dernière, il a joué en n'étant pas à 50%, en n'étant pas à 100%, ça lui a coûté 6 mois d'arrêt. Là, il le dit, il dit voilà, j'avais deux solutions, soit j'y allais, j'étais pas à 100%, soit je suis même pas à 50%, je vais pas y aller. Et pourtant, il joue Stan Wawrinka, un tour relativement jouable au premier tour, et donc il faut aussi comprendre qu'il a pris de la maturité, puis il a pris de l'expérience, qui lui est arrivé l'année dernière. Certes, c'est frustrant, mais il faut pas qu'il joue pour aller reprendre encore 6 mois derrière, quoi.
Tiens, sur ce sujet-là, on va l'écouter, Arthur Fils, au micro d'Eric Hier.
Je peux pas tenir ça pendant 3 heures. Si au bout de 20 minutes t'as mal, c'est pas possible. Après, comme j'ai déjà dit, c'était le dernier tournoi de ma vie, de ma carrière. J'ai pris des anti-inf, et puis c'est parti, on y va. Mais imagine si j'ai mal au bout de 20 minutes et je dois jouer 5-7, un jour de repos et je dois rejouer 5-7, ça tiendra jamais. C'est pour ça qu'on en a discuté avec l'équipe après l'entraînement. On s'est dit, c'est dommage, tu joues bien, mais c'est pas possible.
Voilà, Arthur Fils, touché à la. Eric, d'ailleurs, toujours là, Eric. On sait ce qu'il a exactement, en fait, à Arthur Fils.
Écoutez, on va dire les choses franchement. Ça a tout l'air d'une rechute. C'est toujours le bas du dos. Voilà. C'est ça qui est inquiétant.
Oui, on rappelle, c'est quoi? Il avait une fracture de fatigue au dos qui a été persistante.
L5, il avait joué l'an dernier déjà avec cette fracture de fatigue. Et donc, il avait aggravé la.
À Rome, c'était la hanche qui était pointée du doigt, on le rappelle.
Ouais, mais c'est peut-être des conséquences. C'est peut-être des conséquences d'une tension de quelque chose. Hein.
Bon, Pierre, ça servait à rien qu'il y aille. Non,
moi, je partage d'abord les saisons de tennis. Elles sont continues quasiment. Enfin, ça joue quasiment toute l'année. Donc, s'il s'en remet pour 6 mois, comme disait Sarah, ça n'a pas de sens. Et au-delà de ça. Je pense qu'il a attendu, c'est qu'il est premier français. S'il arrive diminué et qu'il est nul, parce qu'il a mal, on va lui dire ouais, super, il est le numéro un français, il s'est fait sortir au premier, au deuxième tour. Il va prendre la double dose, c'est-à-dire que le mec il l'aura forcé, il va peut-être aggraver sa blessure.
Il a rien à gagner en fait.
Plus, il a rien à gagner.
Il sera pas bon. Donc non, c'est normal.
Arthur Fils forfait donc de dernière minute.
Mais vous savez quoi avec Eric là pendant les 15 jours, on va vous sortir des noms, des matchs à aller regarder, des petits jeunes à suivre.
Alors attends, très bien. Sors ton carnet, note et tu nous en parles dans un instant avec les auditeurs et auditrices au 32-16. Est-ce que ce Roland Garros perd de la valeur sans Alcaraz et sans Arthur Fils Tiens Damien sur WhatsApp 06 424-424. Vous imaginez, c'est comme si l'Italie n'était pas à la Coupe du Monde de foot.
Oula.
Ah mince.
Ah mince.
Bon, allez, tout de suite, tu vois. C'est
pareil que ça, oui, mon surnom quand j'étais coureur, c'était Crasdu.
J'ai fait une erreur dans les chiffres, c'est pas la première fois.
RMC jusqu'à midi.
J'ai l'impression de me transformer en camelot qui vous vend son épluche légumes révolutionnaire dans un marché du Var au mois d'août.
Les grandes gueules du sport.
Il y a les vrais amoureux du sport et puis il y a les tennis, quoi. Georges Quirino.
C'est vrai qu'on est parti très fort sur les punchlines. Hein. La plus inattendue, c'est celle d'Eric Salio quand même. Sur ce qu'il veut nous vendre sur un marché au bar.
C'est son épluche légumes.
Ouais, son épluche légumes.
Ouais.
Tu nous le vendras hein, peut-être dans cours numéro 1, le podcast de tennis à retrouver tous les jours. Sur les différentes plateformes de téléchargement d'RMC. On est avec Pierre Rabadan, avec Marc Madiot, avec Pascal Dupras, Sarah Pitkowski, sans fils et Alcaraz. Est-ce que ce Roland Garros perd de sa valeur? Tiens, vous êtes nombreux à nous appeler au 32-16. Amélie nous appelle de la Marne. Salut Amélie!
Salut l'équipe, comment ça va?
Bonjour
Amélie.
C'est la grande forme, ça a pas l'air de trop toucher, c'est parfait.
Je vais vous expliquer. Je kiffe d'être avec vous, je vous écoute tous les samedis matins, le dimanche matin.
Merci
à vous, je suis trop contente, j'ai 45 balais, mais là j'en ai 10 en étant avec vous.
Merci à toi de nous écouter, c'est super sympa.
Je voulais réagir parce que hier en fait, j'ai 45 ans, j'ai été avec ma fille hier à la journée il y a du quinoa elle a 14 ans et il y a pas plus petit niveau que nous dans la pratique de tennis.
Je crois que tu n'as pas vu jouer Amélie hein, mais bon.
Et donc ça fait 2 ans, moi j'ai repris l'année dernière, ça faisait 10 ans que j'avais pas touché une raquette, enfin bref. Et donc c'était la première fois, ça faisait 20 ans que j'avais pas été à Roland, elle c'était la première fois et en fait on arrive vraiment dans Roland. Et là, elle s'arrête, elle me dit « Oh, ça y est, maman, on est à Roland !» bien sûr qu'on savait déjà qu'Alcaraz, on le verrait pas, donc on était un petit peu déçus, etc. On a kiffé la journée. Mmh. On a kiffé la journée et en fait, c'est peut-être plus facile à 45 balais de dire j'irai pas un tel qu'à 14 ans.
Ouais.
Je pense que les enfants et les ados, ils ont plus besoin de voir tel joueur parce que c'est leur héros, c'est leur star, etc. Mais après en fait quand j'étais avec elle, j'ai dit tiens, t'as vu son positionnement, t'as vu la vitesse à laquelle ça va et tout, et elle a applaudi chaque point et j'ai envie de dire oui, en plus nous on a
t'as trouvé d'autres ressorts en fait pour que ta fille apprécie l'expérience même sans les stars.
Mais ouais, et en fait je crois qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a d'être à Roland. Peu importe quelque part qui on voit, même si une nouvelle fois, bien sûr que on a vu Sinner, c'est magnifique, etc. C'est une chance d'être à Roland. C'est une chance. Et encore, nous on était même pas en match de compète parce que les prix sont quand même onéreux et donc c'était une chance d'aller à cette journée-là parce que ça nous permet de voir du beau tennis. Voilà, c'est ce que je voulais dire. À notre niveau amateur, mais quand même. Qui va à Roland, c'est le tournoi, les spectateurs, c'est quand même principalement des amateurs, vous voyez.
Oui, bien sûr, mais donc du coup, c'est vrai que on vient apprécier de voir le haut niveau quand on est amateur de tennis, quand on vient voir, et au final, c'est la magie de la compétition qui marche, Marc. En fait, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. C'est comme quand tu vas sur les routes du Tour.
ou de Paris-Roubaix.
Les participants à une manifestation sportive, quand on est dans le haut niveau, comme à Roland-Garros ou sur le Tour de France ou tournoi à destination, on vient pour l'événement, on vient pour une ambiance, on vient pour un lieu. Parce que Roland-Garros, c'est quand même un lieu mythique.
Mais tiens, on peut se reconnecter peut-être au petit Marc Madiot. Toi, gamin, tu t'allais voir le Tour de France ou t'allais voir Luis Ocaña, ton coureur préféré?
J'allais voir le Tour de France et Ocaña derrière, un peu plus tard. Mais quand on va sur le bord de la route pour le Tour de France, la première chose que l'on cherche, que cherchent tous les gamins et que cherche tout le public, c'est le maillot jaune. J'ai vu le maillot jaune.
Parfois, on sait pas qui c'est.
Et la caravane.
Et on
a vu le maillot jaune.
Oui, mais c'est l'ambiance. Tu viens chercher une ambiance.
Roland Garros, je suppose que tu marches dans les allées, tu croises Yannick Noah. J'ai vu Yannick Noah, ouais. Tu vas essayer de faire un selfie avec lui. Voilà, c'est ça le truc.
J'ai vu Eric Salio, incroyable. Il est vraiment en Bermuda, comme ils le disent à la radio. C'est incroyable. Tu remercies Amélie.
Il est vert, cherchez pas, il est toujours vert.
Tiens, après Amélie, Juan nous appelle également 32-16 de l'Essonne. Salut Juan.
Salut, bonsoir à tous. Bonjour à tous.
T'es d'accord entre nous? Peut-être t'as fait une insomnie parce que t'as pas apprécié que Fils soit forfait. Donc, est-ce que Roland Garros perd de sa valeur pour toi? T'es d'accord avec Amélie, ce qu'on a encore entendu?
Pas du tout. En fait, je suis d'accord avec Sarah.
Oula, on t'entend pas bien.
Ça va pourquoi, mais.
Vas-y, dis-nous.
Non, pardon. Je suis d'accord en fait sur le fait que Roland Garros chaque année, ça amène beaucoup de stars, etc. Mais c'est aussi l'occasion de découvrir en fait de nouveaux joueurs, des joueurs qui ont tenté en fait de rentrer dans le tableau final. Et je pense notamment à un joueur qui s'appelle Titouan Droguet, que je suis personnellement parce qu'il est issu du club. Duquel je viens en région parisienne, au tennis club de Saint-Germain-les-Corbeilles.
Si on s'arrête à noter tous les potentielles histoires qu'on peut raconter pendant ce Roland Garros. Tu vas chercher des histoires ailleurs aussi. C'est pas, y a pas que les stars qui t'intéressent.
Non. Vous souvenez même à Roland Garros, Pern Force par exemple. Enfin bon, j'ai 57 ans.
Mais oui, évidemment, Pern Force.
Voilà, c'est des surprises. Quand j'étais gamin, je faisais des queues de kilomètres pour aller sur les cours annexes.
Bon, bah, c'est toujours le cas.
C'était plus facile avant d'avoir des places. Maintenant, c'est plus compliqué, mais.
Mais quoi qu'il arrive, tu vas regarder et écouter sur RMC, évidemment, ce tournoi de Roland-Garros pour aller chercher toutes les histoires. Alors, le truc, c'est qu'avec le forfait de Fils maintenant, est-ce que...
sur qui on va se reporter, mais non, mais c'est ça?
Est-ce que avoir des espoirs français en deuxième semaine, par exemple, est complètement utopique?
On a quand même un pourcentage assez faible, on va se dire.
Eric,
c'est
les stats.
Joliment dit.
Tu pars faiblement dans tes
pronostics.
On a des joueurs tête de série, mais bon.
Mais c'est pas des spécialistes de
terre. Une Loïs Boisson, quelqu'un qui est pas attendu par le grand public et qui arrive, Eric.
Ah, mais Loïs Boisson, moi j'attends avec beaucoup d'impatience son match mardi, parce que si elle bat Kalinskaya, attention, ça peut aller très loin. Mais chez les garçons, Corentin Moutet, Arthur Ignatech, ils sont dans la zone de Yannick Sinner, donc voilà, c'est plié, entre guillemets, bien sûr. Mais moi, je commence à désespérer parce que ça fait 15 chelems d'affilée où on est incapable de placer un Français en quart de finale. Et puis, je vais vous poser un quiz. Quel est le dernier Français qui a atteint l'écart ici? Ça remonte à quand?
Gaël Monfils?
Non.
C'est pas Gaël.
Il y a 10 ans, c'était Richard Gasquet.
Richard Gasquet.
Wow. Ça date hein, quand même. Hein.
10 ans.
Là, moi, je commence à prendre des cheveux blancs, donc il serait peut-être temps de.
Ah non, tu les as même carrément, les cheveux blancs.
Hein, ah oui, t'as raison. Oui.
Non, mais c'est vrai que ça. Ça participe quand même à une ambiance de sinistrose quand on n'est pas de Français.
Un peu.
Il y a la dernière de Gaël Monfils, par exemple.
Qui était très réussi, apparemment, et sympathique. Mais oui, c'est vrai qu'on a envie, en fait. Roland, c'est un des quatre tournois mythiques, enfin, le tournoi du Grand Chelem. Et aujourd'hui, ce que disait tout à l'heure l'auditrice, c'est qu'on va à Roland, en fait. On va découvrir l'ambiance, on va vivre une expérience, on va aller chercher des émotions. Et évidemment, on a envie d'être porté par, et quand on est français, par
un Français, joueuse, par une épopée française.
Ça veut pas dire que le tournoi est moins bien, perd de sa valeur ou qu'on n'y ressent plus d'émotion, mais on a envie d'être plus porté. Et là, forcément, moins le truc.
Ça doit être la vitrine.
Oui, mais ça, quand t'es présent,
ça doit être la vitrine du tennis français et du tennis, du tennis français en
attention,
général.
Attention, Sarah, tu es en train de dire l'inverse de ce que tu pensais.
Non, mais parce que c'est d'autres choses.
Je te surveille, moi.
Tu me surveilles, tu m'écoutes. Parce que ça doit être la vitrine du tennis français. Oui, c'est des décorrélé. Effectivement, on n'aurait pas de tournoi du Grand Chelem et on aurait ces mêmes résultats du tennis français. On s'inquiéterait de la même manière. Sauf que là, on a une sorte de loupe pendant 15 jours et c'est là qu'on demande à rendre des comptes. C'est-à-dire que ceux qui suivent le tennis ou le sport français, on veut avoir des comptes. On a des comptes à rendre par rapport à ce que fait le tennis français sur le circuit international.
Mais là, on se dit avec un si beau tournoi, il y a une organisation qui est quand même derrière au-delà.
Tu peux y aller avec autant d'argent, avec autant de moyens.
Alors, oui aussi, c'est la locomotive du tennis français, Roland-Garros. Mais on a du mal à avoir. Comprendre comment on a des espoirs. On a souvent des espoirs qui arrivent, des joueuses et des bons joueurs. Et pourquoi il n'y en a pas un ou une qui arrive à rester et à franchir Roland ou autre chose?
Parce que
les autres tournois, malheureusement.
On les prendrait quand même.
Les tournois du Grand Chelem, j'entends. Non,
pour aller dans le sens que disait Juan, d'ailleurs, je remercie au 32-7 de nous avoir appelé il y a quelques instants. Il a dit le problème, c'est qu'il y a le prix des places aussi à Roland-Garros. C'est difficile maintenant d'avoir des billets. Parce que là, vous parlez de la magie de Roland, d'aller à Roland, comme nous disait Amélie. Mais encore, faut-il y aller. Ce que me dit Xavier, combien de personnes vont aller à Roland? C'est bien ça le problème. C'est-à-dire qu'on parle de la magie de la compétition, mais quand on est téléspectateur, c'est pas forcément la même chose. L'engouement, évidemment, quand tu vas sur place, t'as des grands yeux. Mais alors, évidemment, je pense que vous, auditeurs, auditrices, vous allez continuer d'écouter, ça va vous accompagner parce que c'est aussi quelque chose qui nous fait entrer dans l'été, souvent, Roland Garros, qui nous accompagne
chez les visiteurs rigolants
pour préparer le bac.
T'as du contenu différent.
Roland Garros.
Je veux dire, t'as tellement de médias aujourd'hui que tu peux pénétrer via les réseaux sociaux. Tu peux toute la journée, tu peux suivre ce qui se passe dans les coulisses, tu peux avoir des petits biscuits autour des matchs. C'est sûr que le tournoi de Roland-Garros n'est pas accessible à tout le monde parce que la fédération a fait le choix de rester sur ce site-là et que ce site-là, il n'est pas extensible. Voilà. Et donc, on ne peut pas mettre plus de personnes. Déjà, la fédération, en tout cas le tournoi de Roland-Garros, a ouvert la première semaine, la semaine des qualifications, plus les night sessions. Ça fait rentrer plus de monde dans le stade. Mais on n'est pas l'Open d'Australie, on n'est pas l'US Open où le dimensionnement est quasiment du simple au double.
Mais là, on se concentre sur le tableau masculin, mais dans le tableau féminin, en revanche, tout le monde est là.
C'est très ouvert aussi.
Mais là, c'est très ouvert.
C'est très ouvert. Coco Gauff, Sabalenka, Świątek, franchement, là.
Et avec des personnalités en plus qui sont maintenant installées. Sur le circuit féminin.
Oui, alors donc... là, j'ai un peu plus de doutes sur ta personnalité.
Sabalenka,
oui.
Sabalenka,
oui. Świątek, un peu moins, quand même.
Ouais. Ah oui, mais bon, elle a gagné Roland-Garros plusieurs fois.
C'est très ouvert aussi du côté des filles.
Elle va valoriser, justement, le tennis féminin. Et soit on peut en être.
Ah oui.
Tiens, on va faire un dernier petit tour de table sur ce Roland-Garros. Vous, c'est qu'est-ce que vous avez envie de suivre? Quelle est l'histoire qui vous intéresse? Pascal, qu'est-ce que t'as. Quelle épopée tu es?
Deux, en fait, Djoko, entendu, et puis Zverev, parce que je le voudrais être davantage compétitif dès lors qu'il arrive dans le dernier carré, quoi. Je voudrais qu'il saisisse sa chance.
Moi, je suis d'accord. Jamais. Pour moi, c'est Djokovic. Moi, je veux voir si Djokovic est encore capable de faire un truc finaliste à l'Open d'Australie. Pierre.
Eh ben, moi, je vais aller sur le tableau féminin. Justement, je veux voir si Sabalenka. Que j'ai vu très énervé en fin d'année l'année dernière, est capable d'aller au bout.
Ah ouais, elle n'est jamais allée au bout, on rappelle, dans Roland-Garros. Marc,
toi tu vas aller. Moi je rêve d'une finale Djoko-Sinner.
Ah ouais.
Et Sinner face à son destin, face à un monstre.
Ah, mais à chaque fois, il nous emmène dans les trucs mystiques. Mmh. Et là, j'imagine, la nuit tombe, des loups arrivent sur la terre battue, et là, on sort les baïonnettes.
Alors, moi, les premiers tours, là, ce que j'aimerais voir, c'est est-ce qu'il est possible que Valentin. Valentin Vacherot, qui n'est pas tout à fait français, mais qu'on porte quand même.
Il est même monégasque.
Il est même monégasque.
Même pas du tout.
Même pas du tout.
Oui, mais je vous fais le pari qu'au bout de 8 jours, il sera français.
Ah, ben bien sûr, c'est comme quand Charles Leclerc sera champion du monde de Formule 1 et il sera à nous.
Exactement. Donc, moi, j'aimerais voir Valentin parce que quand il est sur le terrain, il dégage quand même quelque chose. Évidemment, Djoko et Sinner. Moi, je veux voir les premiers tours de Sinner parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais si les conditions sont toujours aussi chaudes dans les premiers tour, ce qui va pas.
C'est un handicap pour lui.
Il supporte pas trop. Hein. Il a pas une tête un peu plus d'Irlandais que d'Italien quand même.
Tu parles en connaissance de cause.
Je parle en connaissance de cause absolument.
À 11h30 tout à l'heure, on se posera la question si Sinner est sous pression.
Un peu d'énergie entre temps. Moi, je suis fan de Sinner. Je vous le répète, j'adore son tennis. Mais je veux voir comment il va supporter un peu les attentes qui. parce que Alcaraz en moins, Arthur Fils, c'est des attentes en plus sur lui. Voilà, donc voir comment il va gérer ça.
Eric Salio, Marc Madiot te redonne ton badge et tu peux à nouveau faire partie de l'entreprise pour revendre la première journée de Roland Garros. Qu'est-ce qu'on va suivre aujourd'hui?
Mais évidemment qu'il y aura des matchs formidables. L'auditeur parlait de Tito Androgué, il va poser de gros problèmes à Jakub Mensik. Ce sera sur le court Simone Mathieu en milieu d'après-midi. On va suivre avec beaucoup d'attention Zverev contre Benjamin Bonzi. Ce sera vers 14h. La night session sera pas simple pour Djoko parce que il a pas gagné un match depuis très longtemps. Et Giovanni Pichipiricard, s'il est en feu au service, vous savez qu'il a un nouveau coach. Hein, c'est l'anglais Greg Ruzetsky qui a quand même fait des finales de Chelem. Donc ça, c'est un atout.
Comment il s'appelle?
Greg Ruzetsky.
Ah oui, d'accord.
Okay. Et moi, j'ai très envie de voir aussi, et c'est peut-être la première surprise, Arthur Géa, qui est d'Avignon, qui va jouer dès 11h contre Karen Khachanov sur le Linglen. Et là, le stade sera plein déjà. Et puis, pour ceux qui ont des places sur les annexes, fin d'après-midi, allez sur le 7, Sarah. Mmh. Quentin Alice contre l'Italien Bellucci, Valentin Royer, ce sont des ambiances absolument extraordinaires pour les Ténix. Mais non, mais allez-y sur le 7, ça va être fabuleux. Et le 14, c'est encore mieux. Le 14, c'est une arène, c'est une petite cuvette. Et en fin d'après-midi, il faudra soutenir Pierre Gerber contre l'Italien Lorenzo Sonego.
Eric, il va mieux qu'au début de l'année.
Ça va mieux, là, merci.
Oui, parce que là il aime quand il va sur les cours annexes et qu'il se passe plein de choses et qu'il ramène plein de sons, plein d'ambiance.
J'aimerais bien savoir si sur les cours annexes, ils disent... les joueurs. Eric Salio qui vient d'arriver, je crois. Je viens de voir sa crinière blanche et son Bermuda. Merci Eric. Quand on retrouve tout au long de la journée, évidemment, je rappelle que on va suivre sur RMC les premières balles. Vous pouvez suivre également toutes les balles sur notre radio digitale 100% terre battue dès 11h. Vous aurez toutes les rencontres, évidemment, et cours numéro 1 aussi, notre podcast tous les jours pour écouter les déambulations d'Eric et Anthony Reich notamment à Roland Garros.
Moi aussi.
C'est vrai.
Bah oui, je suis avec eux tous les soirs.
J'adore ce podcast.
Je fais pas la ravie de la crèche, mais je suis avec vous tous les soirs.
Vraiment, Roland Garros, ça m'accompagne, je vous le dis. Votre podcast en numéro 1, c'est super. On se sent vraiment avec vous dans les travées de Roland. Tiens, sur RMC aujourd'hui, jouez à la liste des 26 pour remporter 10 000 euros. Vous avez bien entendu, choisissez votre joueur préféré là sur un tableau que j'ai derrière moi, un joueur préféré de l'équipe de France. Vous me donnez le numéro, son nom. Et vous pouvez gagner 10 000 euros, le pack Coupe du Monde, vidéoprojecteur, maillot des Bleus, ballon officiel et boîte Lego du trophée. Restez bien à l'écoute et au moment du top inscription, vous aurez 5 minutes pour envoyer liste au 7-32-16. Liste au 7-32-16. Dans quelques instants, le zapping, on va parler vélo, on va parler Formule 1 dans les grandes gueules du sport sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Dans un instant sur le ring des GG, J-6 à PSG Arsenal. Est-ce que le PSG finaliste l'an passé a un gros avantage sur les Gunners? On vous attend pour voter sur le compte X des grandes gueules du sport notamment. C'est le moment de vous inscrire à notre jeu pour tenter de remporter 10 000 euros ou le pack Coupe du Monde, vidéo projecteur, maillot des Bleus, ballon officiel, boîte Lego du trophée. Franchement, le Lego du trophée est impressionnant. Venez sélectionner un joueur dans la liste des 26 des Bleus. J'ai derrière moi et vous repartirez forcément avec un super cadeau. Vous envoyez des maintenant, liste au 7-32-16. Liste au 7-32-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Tout de suite, les GG, vous me dites si on s'en fout, on s'en fout pas.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Je m'en fous pas. En Formule 1, avant le Grand Prix du Canada à 22h sur RMC, la température monte entre les deux Mercedes de Russell et Antonelli. Marc.
On s'en fout pas.
Pierre.
On s'en fout.
Pascal.
On s'en fout pas.
Ah ben on Sarah. S'en fout pas.
Eh oui, mais c'est pour ça que Pierre, il a tout compris. On peut s'en foutre parfois. Ou faire. Julien Benetto adore faire du air zapping, par exemple. S'en foutre tout le temps. Alors, les deux pilotes ont failli s'accrocher après plusieurs manœuvres agressives de l'Italien sur la course au sprint hier, où il a terminé 3e et son coéquipier 1er. Russell partira en pole devant le jeune transalpin de 19 ans, leader du championnat, qui ne veut pas faire de complexe par rapport à son aîné de 8 ans. Ça promet au premier virage, Marc.
Ça va être très intéressant à suivre. Et la fin de la séance d'essai hier était fantastique parce que Russell a doublé ses tentatives de pole dans les toutes dernières secondes, là où son coéquipier n'a fait qu'une tentative, il en a fait deux avec le même train de pneus et c'était intéressant à suivre. Il a été la chercher, la pole. Il va la chercher à l'arrache et je pense qu'on va avoir un départ sous haute tension cet
ils
après-midi.
Ils ont surtout failli se carambouler.
On rentre dans le vif du sujet et ça va être très intéressant.
Non, mais c'est ça, Pascal, il commence à avoir une petite histoire. C'est vrai, Antonelli a tenté deux dépassements très agressifs. Son patron Toto Wolff lui a tiré les oreilles. Non, mais c'était peut-être le seul qui manquait à cette saison.
Ouais. Le Sal, il est là, 19 ans, il a du toupet.
Mais il manque un peu de... Je pense qu'il va quand même manquer de métier. Et il rentre... En fait, les premiers Grands Prix, il était dans une forme d'euphorie. Et là, il s'est rendu compte qu'il avait peut-être les armes pour être champion du monde, mais ça commence à le travailler au cerveau.
Mmh. Ah, moi, j'ai l'impression qu'il a, il a la carrure pour être champion du monde à son âge.
En tout cas, on se rend compte que les concurrences intra-écurie, en fait, peu importe, c'est ça qui donne...
Prost, Senna.
C'est ça qui donne les storytelling. Et tu veux savoir s'il y a des stratégies de course. Enfin bon, c'est là que ça devient intéressant en fait. Hein.
C'est du management.
C'est du management.
Ouais,
à
l'intérieur de l'équipe.
On a parlé de ça toute l'année dernière avec McLaren qui a eu du flair pour gérer Piastri et Norris. Enfin, je sais pas, ça a été chaud.
Mais est-ce que ça a été géré? Est-ce qu'à un moment, ils les laissent pas se gérer tout seuls?
Ah bah, c'est ce qui s'est passé l'année dernière.
Tu sais pas faire.
Ils vont les mettre à égalité.
Le problème, c'est qu'ils ont peur qu'ils se foutent les deux dans le bac à sable.
Oui, mais à partir du moment où ils ont le titre de champion du monde de constructeur, des fois, tu as l'impression que l'écurie, c'est peut-être ce qu'elle préfère, finalement.
Je croyais que tu t'en foutais, Pierre.
En fait,
pas de la Formule 1, j'adore ça, mais c'est vrai que ce sujet-là entre ces deux-là à ce stade,
ils t'ont ambiancé en fait.
Vraiment un peu ambiancé.
Allez, 22h ce soir, le Grand Prix à suivre avec Jean-Luc Roy. Évidemment, rien que pour ça, on a envie de suivre ce Grand Prix du Canada. On zappe. Je m'en fous pas. En cyclisme, Vingegaard a pris les commandes du Giro à une semaine de l'arrivée à Rome. Pascal.
Je m'en fous pas.
Sarah.
Bah non, je m'en fous pas.
Pierre.
J'ai plein de questions à poser là.
Je m'en fous encore.
Marco.
Surtout pas.
Le Danois a remporté en solitaire la 14e étape arrivée à la station de ski de Pille. Hier, 45 secondes devant Félix Gall, l'un de ses principaux adversaires en général, qui devance désormais de 2 minutes 50. Vingegaard portera ce matin le premier maillot rose de sa carrière. Patron, Jonas.
Bonne gestion. Très bonne gestion. Je trouve qu'il est arrivé comme il fallait pour lui sur ce Giro. Il a une marge de sécurité par rapport à la concurrence et surtout l'intérêt qu'il va en...
C'est 2 minutes, là. Il y a 2 minutes. Hein.
Il y a 2 minutes 50 sur Regal.
2 minutes 50.
En fait, tout est sous contrôle et l'objectif pour lui, c'est de sortir extrêmement fort de ce Giro pour être un bon poil à gratter sur le prochain Tour de France.
Ouais. Ouais. J'attendais l'analyse de Marc, en fait, parce qu'il me donne cette impression... Vingegaard sur ce Giro de pas faire le coup de pédale de trop.
Voilà. Il fait juste ce qu'il faut quand il faut. Et je pense qu'il est en répétition pour le Tour. Et cette nouvelle façon d'aborder le Tour de France par rapport à Pogacar va être très intéressante. Moi, ça, je suis assez curieux. S'il a pas d'anicroche jusqu'à la fin de ce Giro et qu'il sorte comme il l'espère au max du max,
ça va être un client.
Des trucs pas mal sur le Tour.
Attends, t'as nous vendre du suspense sur le Tour de France, ça t'était marqué.
Bien sûr.
Je pense que Vingegaard peut accrocher Pogacar.
Oui, et pourquoi pas. Ouais. Il a changé sa route, il passe par le Giro, il n'a pas eu d'anicroche depuis l'hiver dernier. Intéressant.
Il est différent, moi, je trouve.
Très intéressant.
Et certains lui reprochent de, justement, peut-être ne pas en faire assez.
Il ne tombe pas dans le piège.
Il ne faut pas qu'il fasse du Pogacar.
Mais surtout pas. Là, s'il peut. Moi, je suis à sa place et avec son staff. Je reste tranquille toute la fin du Giro, je monte en pression, s'il y a une gagne à prendre, je la prends, mais presque gratos sur les 2-3 derniers kilomètres d'ascension. Si on regardait les efforts qu'il a fait, tout a été maîtrisé. Hein.
Un mot sur son équipe.
Ça dure une petite quinzaine de minutes par jour.
C'est ce que j'allais dire, hein. elle est vachement... Mais est-ce que ce sera la même équipe?
Allez, 15 minutes par jour.
Oui. Donc ils se fatiguent pas.
Oui, là, juste ce qu'il faut.
Les Visma t'ont impressionné.
Mais ouais, c'est l'équipe qui m'impressionne. Est-ce que ce sera les mêmes coéquipiers sur le Tour ou ils vont faire tourner?
Peut-être quelques-uns, mais ils vont faire tourner aussi. Et je pense qu'ils ont.
Ils ont calculé.
Ils ont basculé sur autre chose chez Visma et ne les enterrons pas trop vite.
Ok. Ben voilà quelqu'un qui fait son taf pour vendre l'événement de l'été.
Ben oui.
On envoie des conseils à Eric Salio.
Marc qu'on va envoyer sur les marchés vendre des éplucheurs.
Bon, ben, Marco, je l'achète n'importe quoi. Hein. C'est direct. Hein. 15e étape promise au sprinter aujourd'hui. Donc, on verra peut-être Paul Magnier arriver à Milan, qui était parfois l'arrivée finale d'ailleurs, Milan, parce que c'est là que la Gazzetta dello Sport a été créée, si je ne me trompe pas. Allez, on zappe. Je m'en fous pas. Dernier match de Pep Guardiola sur le banc de Manchester City aujourd'hui. Pierre.
Je m'en fous pas.
Ah, j'ai cru que t'allais faire un air zapping.
Je laisse les autres.
Marc.
Je m'en fous pas.
Après 10 ans et 20 trophées remportés sur le banc des Citizens, le Catalan va vivre son dernier match à l'occasion de la dernière journée de Premier League à 17h contre Aston Villa. Je t'en fous pas parce que Guardiola, c'est quelqu'un quand même.
Ouais, c'est quelqu'un et c'est quelqu'un qui, comme Enrique au PSG en ce moment, je pense, fait bouger les lignes, fait bouger le foot, fait, moi, m'a fait beaucoup, beaucoup regarder la première ligue. Je crois que ça fait 10 ans, je crois, qu'il est sur le banc. Donc voilà, c'est une page qui se tourne pour la première ligue et le mec est passionnant, quoi. Au-delà du jeu, je trouve que sa relation aux médias, la manière dont il communique, ce qu'il fait des joueurs aussi. Et ça, il y a trop peu de managers encore qui font vraiment progresser individuellement les joueurs. Et lui, ça a toujours été son créneau. Et voilà, moi, j'aime bien le mec, donc je m'en fous pas.
Pascal, la dernière de Pep Guardiola. On va plus regarder la première ligue derrière? Est-ce que la première ligue perd de sa valeur?
On va continuer à la regarder, mais bon, après Alex Ferguson, qui était c'était un dieu vivant pour moi. Je pensais pas qu'il y ait quelqu'un qui pouvait marquer autant la première ligue. Alors, bien sûr, il y a eu Arsène Wenger, mais franchement, Guardiola, c'est impressionnant ce qu'il a réussi à faire. Et puis, je note quand même quelque chose, et j'ai l'impression qu'il est quand même touché. Parce qu'il a quelques tocs sur le banc de touche.
Ah, mais il est plus en plus nerveux depuis quelques années, hein.
Ouais, donc,
on a vu se griffer le crâne et tout.
Il doit avoir besoin de souffler. Franchement, ça doit être difficile. Il doit avoir une pression immense.
Tu mets 10 ans à ce niveau-là, au très haut niveau, avec les enjeux. Mais c'est pas anodin, en fait.
Bah, ça doit laisser des traces, mais moi, je suis intéressé par la suite.
Ouais, la suite, effectivement. On va voir ce qu'il veut. Pour l'instant, on sait pas trop. Est-ce qu'il prendra une sélection, par exemple? Il y a son nom qui a filtré en Italie, parfois. J'ai l'impression que tout le monde est annoncé sur le banc de la Squadra Azzurra. Hein.
Il vous vous rendez compte, Guardiola sur le marché et Didier Deschamps.
Ah, bah oui.
L'été va être chaud.
Ça va coûter un petit billet, quand même.
Pas la pression, quand tu vas reprendre l'équipe d'Italie, là.
Oui, c'est ça. C'est ça. A priori, je ferais mieux que mon prédécesseur. Pas pire. Tiens, je vous rappelle juste que les Lyonnaises, malheureusement, ont été battues en finale de la Ligue des Champions féminines, sévèrement battues 4-0 par le Barça, et que cette nuit on aura le match 4 pour les Spurs de Wembanyama face à OKC à 2h du matin. San Antonio qui est mené 2-1, je rappelle, dans la série, la première équipe à 4 victoires se qualifie en finale NBA. On revient dans un instant, on va parler de PSG Arsenal, on est à 6 jours de la finale de la Ligue des Champions, on va parler de l'UBB qui a gardé sa couronne en Champions Cup. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.